Prince, le journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Anne Verdaguer.
Bonjour Amélie, bonjour à tous. À la une, aux États-Unis, le nombre de personnes contaminées au coronavirus flambe pour atteindre un chiffre jamais atteint en 24 heures. Du coup, en Californie, par exemple, toutes les activités en intérieur vont être restreintes à nouveau. On en parle dans un instant avec Romain Lemaresquier. Au Pérou, malgré des mesures de confinement drastiques qui ont pris fin le 30 juin dernier, l'épidémie est toujours là et a tué plus de 7000 personnes. À Lima, Violaine Munoz-Boileau revient sur la façon dont a été gérée l'épidémie dans le plus grand hôpital. On va vous parler aussi du livre écrit par la nièce de Donald Trump sur le président américain qui sortira fin juillet après la décision d'un juge de la Cour d'appel de New York, un livre qui risque d'être explosif. Et puis en Haïti, on s'interrogera sur les conséquences de l'ouverture des frontières et des aéroports internationaux avec Franz Duval du Nouvelliste. Aux États-Unis, la pandémie de coronavirus se propage donc à grande vitesse et une deuxième vague est en cours. Bonjour Romain Lemaresquier.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la revue de presse des Amériques avec vous, il y a eu plus de 50 000 nouvelles infections. Romain, en moins de 24 heures, un niveau record depuis le début de la pandémie.
Oui, 52 898 nouveaux cas rapportés pour être exact, précise le Washington Post, ce qui porte le total de personnes infectées à plus de 2 700 000 personnes. Le nombre de décès reste quant à lui plus ou moins stable avec 706 décès en 24 heures pour un total désormais de 128 028 morts des suites du Covid-19. Alors si, comme le rapporte le quotidien, Donald Trump estimait dans une interview sur la chaîne Fox Business que le virus allait en quelque sorte disparaître à un moment donné, du côté des fonctionnaires, le discours n'est pas le même. Pour preuve, un grand nombre d'États ont décidé de faire marche arrière sur leur plan de retour à la normale.
Et c'est le cas notamment en Californie, Romain.
Oui, le gouverneur Gavin Newsom a annoncé hier la fermeture des bars et la suspension des activités en salle pour les restaurants qui pourront tout de même continuer à servir en terrasse. Selon USA Today, les cinémas, les zoos, les musées et les salles de jeux seront également concernés. Une mesure annoncée afin d'atténuer la propagation du coronavirus avant le week-end du 4 juillet, jour de fête nationale aux États-Unis, et qui sera appliquée durant 3 mois. La gouverneure du Michigan a également annoncé le même type de mesure, précise Detroit Free Press, bien qu'elle ne s'appliquera qu'aux bars dans cet état du nord des États-Unis. Les bars qui sont considérés comme le principal foyer de propagation du virus par les autorités locales, explique le quotidien.
Et c'est aussi le cas, Romain, dans l'Arizona où il y a plus de 75 000 cas confirmés à l'heure actuelle, une augmentation d'un tiers en seulement 10 jours. Les hôpitaux sont au bord de l'explosion. Depuis quelques jours, les médecins doivent appliquer un protocole très strict selon lequel ils doivent choisir les patients à traiter en priorité. Will Humble est directeur de l'Association de santé publique de l'Arizona. Selon lui, cette situation catastrophique est une conséquence directe de la décision du gouverneur républicain de l'État de redémarrer la vie publique dès la mi-mai. On écoute William Bell.
Take bars, for example, and nightclubs.
Prenez des bars ou des boîtes de nuit, par exemple. Ils avaient l'autorisation de rouvrir le 15 mai, mais sans obligation de respecter des mesures de distanciation sociale. C'était recommandé, mais pas obligatoire. Beaucoup d'entre eux ont servi du champagne gratuit et les jeunes de 20 et 30 ans ont fait la fête jusqu'à 3 heures du matin, sans masque et sans respecter les distances nécessaires. Et comme vous le savez, ce virus surfe sur le comportement stupide des gens. C'est ce qui fait que le virus se propage. C'est aussi simple que cela. On voit bien aujourd'hui que les nouvelles infections concernent surtout les personnes âgées entre 20 et 40 ans. Heureusement, dans cette tranche d'âge, les malades n'ont pas forcément besoin d'être hospitalisés ou d'être admis en unité de soins intensifs. Mais ces cas intensifient la propagation du virus qui finira par contaminer les parents et grands-parents et des aides-soignants qui travaillent dans les maisons de retraite.
Some of them work in care homes, etc.
Will Humble, directeur de l'Association de santé publique de l'Arizona, au micro d'Arim Lipold. À la une, également aux États-Unis, Romain, un juge américain a donc levé l'interdiction temporaire de parution d'un livre écrit par la nièce du président, Donald Trump, et qui contiendrait des révélations potentiellement explosives.
Oui, un livre intitulé « Trop et jamais assez, comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde » et écrit donc par Mary Trump, la nièce du président. Il doit sortir normalement le 28 juillet, c'est-à-dire 3 mois avant l'élection présidentielle, détaille le New York Times. La semaine dernière, Fred Trump, un frère du président, a saisi un tribunal pour empêcher la publication. Selon lui, ce livre violait un accord de confidentialité que cette nièce avait accepté en lien avec l'héritage de Fred Trump, le père du président. La justice lui avait donné raison mardi, mais hier, un juge fédéral de New York a levé cette injonction, estimant que l'éditeur ne faisait pas partie de l'accord. Un livre qui devrait donc paraître le 28 juillet prochain.
Direction le Venezuela, Romain, où l'on connaît depuis hier la date des élections législatives qui se tiendront finalement le 6 décembre prochain.
Oui, des élections très attendues, mais auxquelles pourrait ne pas participer l'opposition, comme le laisse entendre ce matin El Nacional. Le Conseil national électoral désigné par le Tribunal suprême de justice, qui est aux mains des chavistes et du président Nicolas Maduro, a donc officialisé hier la date pour renouveler l'Assemblée nationale. Petit changement qui interroge la presse d'opinion. Le nombre de députés va passer de 167 à 277. Juan Guaido, le président par intérim du Venezuela et président aussi de l'Assemblée nationale, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne participerait pas à cette farce électorale. Le numéro 2 du pouvoir, Diosdado Cabello, a quant à lui confirmé qu'il était temps de changer la direction de cette institution, précise La Patilla, et que même les menaces liées à la pandémie du coronavirus n'empêcheraient pas, je cite, ce show électoral.
Merci beaucoup Romain Lemaresquier. On part au Brésil à présent. Le pays a dépassé les 60 000 morts dus au coronavirus. Le Brésil où les livreurs organisent leur première grève nationale. Alors qu'ils sont devenus essentiels pendant la pandémie, ils restent toujours invisibles dans la société brésilienne, mal payés, mal protégés. Ce mercredi, les livreurs ont défilé dans les rues des grandes villes du pays pour réclamer de meilleures conditions de travail et une hausse des frais de livraison. Un sujet signé Sarah Cozzolino.
En travaillant près de 12 heures par jour, la majorité des livreurs gagnent environ 160 euros par mois. C'est moins que le salaire minimum au Brésil.
Travailler la forme au ventre en transportant de la nourriture sur son dos, c'est de la torture. On passe nos journées à sentir les odeurs de nourriture, de repas qu'on ne pourra jamais s'offrir de notre vie. Des langoustes, du filet mignon.
Paulo Lima est à l'origine du mouvement des livreurs antifascistes. Il y a 3 mois, au début de la pandémie, il a lancé une pétition pour réclamer de la nourriture et du matériel de protection contre le coronavirus. Résultat, il a été bloqué de toutes les applications pour lesquelles il travaillait, Uber Eats, iFood et Rappi.
On n'a personne à qui demander des explications parce que la plupart du temps, on s'adresse à un robot. Si la révolution industrielle a supprimé des métiers, l'ubérisation nous supprime des droits.
Alors que près de 9 millions de Brésiliens se sont retrouvés au chômage pendant la pandémie, nombreux se sont tournés vers les applications de livraison et le salaire des livreurs a nettement baissé.
Il y a plus de concurrence pour les commandes et moins on gagne, plus on doit travailler. Parce qu'on a des factures à payer, on travaille pour rembourser nos dettes.
Pendant la grève, les usagers étaient appelés à ne pas commander et à faire pression sur les applications en leur mettant la pire note. Près de 60 000 commentaires négatifs ont été enregistrés pendant la journée. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Le coronavirus qui reste aussi très actif au Pérou, malgré des mesures de confinement très strictes, est l'un des plus longs confinements au monde, puisqu'il a pris fin le 30 juin dernier et qu'il aura duré 3 mois et demi. Et bien, le Pérou est aujourd'hui le deuxième pays d'Amérique latine le plus touché par l'épidémie, après le Brésil, avec plus de 230 000 cas confirmés et plus de 7 000 morts. Hôpitaux saturés, pénurie d'oxygène, manque de personnel. L'épidémie a conduit à l'effondrement du système de santé péruvien, déjà défaillant avant la pandémie. Reportage de notre correspondante à Lima, Violaine Munoz-Boileau.
À l'hôpital Dos de Mayo, le plus grand et le plus vieil hôpital public de Lima, il y a encore quelques semaines, la file d'attente se prolongeait jusque dans la rue, comme le raconte le docteur Ricardo Arones.
On avait 200 à 250 patients par jour, alors on a mis en place des tentes pour accueillir les patients Covid. Mais les gens continuent à arriver, donc on a installé des lits sur les places de parking, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus mettre personne nulle part. Les patients ont alors commencé à faire la queue devant l'hôpital, jusqu'à passer la nuit dehors, à même le sol.
Si la file d'attente a aujourd'hui disparu, la situation à l'intérieur de l'établissement ne s'est pas améliorée pour autant.
Les gens ont arrêté de venir car ils savent que l'hôpital est débordé et ceux qui viennent sont dans un état grave. L'hôpital dispose de 22 lits en soins intensifs, mais à cause de problèmes techniques, seuls 6 fonctionnent. Donc si un patient a besoin d'un lit, soit il y en a un qui se libère et c'est tant mieux, sinon il faut qu'il tienne le coup ou il meurt.
Une situation dramatique devenue tristement banale depuis le début de l'épidémie de coronavirus au Pérou. Ce pays de 32 millions d'habitants ne dispose actuellement que de 1300 lits en soins intensifs, dont plus de 1000 sont occupés. Par ailleurs, le pays est confronté depuis plusieurs semaines à une pénurie d'oxygène qui touche jusqu'aux hôpitaux de la capitale, comme le raconte ce médecin qui préfère rester anonyme.
Il y a un camion qui vient approvisionner l'hôpital en oxygène. Souvent, on est à court vers 21h. Et il faut attendre 10 heures le lendemain matin pour être livré. Donc beaucoup de patients passent toute la nuit sans oxygène. Des patients sont morts à cause de ça.
En première ligne, ces médecins dénoncent des conditions de travail qui mettent en danger leur vie et celle des patients.
Au début, on n'avait pas d'équipement de protection. Ça s'est un peu amélioré suite à la pression médiatique qu'on exerçait. Mais il n'y a toujours aucun protocole à l'entrée de l'hôpital. Personne ne prend notre température. On rentre sans savoir si on a de la fièvre. Moi, on m'a testé une seule fois depuis le début. Donc je suis peut-être asymptomatique, peut-être que j'ai le Covid et que je le transmets aux patients.
Depuis le début de l'épidémie de coronavirus dans le pays, 1500 médecins ont été diagnostiqués positifs et 51 sont morts du virus. Un bilan qui vient plomber un peu plus le moral du personnel de santé qui affronte la pandémie en sous-effectif. Selon le médecin et ex-ministre de la Santé Pilar Mazzetti, la moitié du personnel de santé n'est pas opérationnel aujourd'hui car il s'agit de personnes à risque. Le coronavirus n'a fait qu'exacerber la défaillance d'un système de santé dénoncé depuis des années. En octobre dernier, soit bien avant l'arrivée de l'épidémie de coronavirus au Pérou, la ministre de la Santé d'alors, Zulema Thomas, reconnaissait que le pays manquait de 16 000 spécialistes et de 10 000 médecins généralistes. Pour le docteur Godofredo Talavera, président de la Fédération des médecins du Pérou, la situation actuelle résulte de l'absence ces dernières années d'une réelle politique d'investissement en santé publique.
Le Pérou investit 2,2% de son PIB en santé publique, ce qui est dérisoire, alors que la moyenne en Amérique latine est de 5%. Et chaque année, on dépense en moyenne $300 par habitant, alors qu'en Europe, ils sont à 4 000, 5 000 $. Donc on investit très peu dans la santé, d'où la défaillance de notre système.
Dès le mois d'avril, le président Martin Vizcarra a lui-même reconnu la défaillance du système de santé. Mais cette prise de conscience n'a jusqu'ici pas eu de réel impact sur la situation sanitaire du pays qui ne cesse de se dégrader. Viloé Minos-Boileau, Lima, RFI.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Direction Haïti où nous retrouvons Frantz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Bonjour Frantz.
Bonjour.
À la une de la presse haïtienne, la reprise de l'activité à l'aéroport Toussaint Louverture qui a donc rouvert le 30 juin et qui a reçu hier ses premiers passagers à Port-au-Prince.
Les premiers passagers sont arrivés, tout s'est bien passé. Les premiers passagers sont partis également quand les Haïtiens ont repris les avions pour aller vers l'étranger, particulièrement les États-Unis. Tout se passe bien, ce moment était attendu par le secteur touristique en Haïti, était attendu par le gouvernement et par tous ceux qui étaient bloqués en Haïti depuis le mois de mars, quand les aéroports avaient été fermés par décision gouvernementale.
Autre sujet qui est également lié à cette réouverture de l'aéroport international, les autorités haïtiennes ne respectent pas l'arrêté d'état d'urgence qu'elles ont signé le 19 mars, selon le Nouvelliste. Un arrêté qui prévoyait entre autres la fermeture des aéroports internationaux et des frontières terrestres et maritimes.
L'arrêté est toujours en vigueur, l'état d'urgence sanitaire est toujours en vigueur, ça va rester jusqu'au 19 juillet, jusqu'à ce qu'on change l'arrêté ou bien qu'on prenne un nouvel arrêté. La situation de cafouillage existe sur plusieurs points en ce qui concerne le coronavirus. C'est aussi le cas pour le protocole que ceux qui reviennent de l'étranger doivent suivre pour rentrer en Haïti. Un jour, les autorités disent qu'il faut un certificat COVID négatif. Un jour, ils disent que c'est pas nécessaire. Un jour, ils disent qu'il faut rester en quarantaine. Un jour, ils disent que c'est pas nécessaire. Il y a beaucoup de cafouillage pour le moment. Ça va continuer encore pendant quelques jours. Le Premier ministre a dit que tout n'était pas en place, qu'on va accepter tous les passagers qui reviennent de l'étranger. Mais d'ici une quinzaine de jours, il se pourrait qu'on change encore le protocole, d'autant qu'Haïti suit avec attention ce qui se passe aux États-Unis, qui est la principale destination, mais qui est aussi le principal point de provenance de ceux qui viennent en Haïti. Et comme la pandémie prend de l'extension aux États-Unis, le gouvernement haïtien suit tout ça. Pour le moment, l'aéroport est ouvert, les frontières sont ouvertes, mais l'état d'urgence est toujours en vigueur.
Également à la une du Nouvelliste ce jeudi, France, la décision de la République dominicaine de maintenir sa frontière avec Haïti fermée.
Haïti avait annoncé en grande pompe le 30 juin la réouverture de la frontière. Les autorités dominicaines, eux, ont annoncé que de leur côté, la frontière va rester fermée. Il faut dire que l'inverse s'était passé la dernière fois. Les Dominicains avaient laissé leur frontière ouverte et Haïti avait fermé en premier sa frontière unilatéralement. En essayant de l'ouvrir unilatéralement, les Haïtiens se sont heurtés aux autorités dominicaines qui, à leur tour, décident de prendre leur temps avant de rouvrir la frontière. Il faut dire que la frontière entre les deux pays, c'est plutôt une fiction, car les Haïtiens continuent de traverser dans les points non officiels de la frontière. Ce qui est fermé, ce sont les postes frontaliers officiels, mais le reste de la frontière est encore ouverte et n'a jamais été fermée.
Et puis cette phrase « Haïti est ouvert au monde », c'est en gros le message que ceux qui privilégient l'économie sur le sanitaire font passer depuis quelques jours en Haïti.
Tout à fait, le Nouvelliste le traite en éditorial ce matin pour dire que les autorités haïtiennes veulent ouvrir le pays, veulent que l'économie recommence à fonctionner, mais il y a plusieurs paramètres qui ne sont pas encore en place. Pour le moment, tous les avis de voyage déconseillent de venir en Haïti. Il faut dire que ces avis de voyage étaient en application avant le coronavirus pour des questions de sécurité, pour des questions de difficulté des autorités de contrôler le territoire. Ces avis négatifs sont encore en place. Toutes les chancelleries déconseillent de venir en Haïti. Il y avait quasiment plus de touristes avant le coronavirus. Les Haïtiens doutent qu'il y en aura beaucoup avec le coronavirus. Le dilemme, c'est que l'économie doit s'ouvrir, les Haïtiens doivent pouvoir faire des échanges, mais en même temps, les conditions concrètes, réelles, matérielles de vie, d'hospitalisation, de sécurité, de transport sont encore compliquées. On tâtonne, on espère qu'on arrivera à bon port, mais pour le moment, c'est plutôt compliqué.
Merci beaucoup, Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste en Haïti. L'actualité des Outre-mer, à présent avec le journal La Première Caraïbe, présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une en Martinique, l'aéroport international Aimé Césaire se prépare à accueillir les vacanciers dans des conditions évidemment assez particulières.
Eh oui, les avions volent de nouveau à travers l'Atlantique, les avions d'Air Caraïbes, de Corsair depuis Orly, d'Air France depuis Roissy. Bref, à l'orée des grandes vacances dans l'Hexagone, les hôteliers martiniquais attendent les touristes métropolitains de pied ferme. Même si, le voyage et l'accueil se passeront, vous l'avez dit, dans des conditions encore assez spéciales. Fabrice de Frémont.
Deux à trois gros porteurs arrivent régulièrement et d'ici le 10 juillet, l'aéroport en attend entre 3 à 4 par jour, soit entre 1400 et 1800 passagers. Des passagers qui seront systématiquement contrôlés à l'arrivée par les services de l'ARS avec prise de température et isolement d'une semaine. Et à partir du 11 juillet, tous les passagers devront impérativement avoir effectué un test de moins de 72 heures avant d'embarquer depuis Paris. Le port du masque est obligatoire à l'intérieur de l'aéroport pour toutes les personnes, passagères ou accompagnants. Des protections sont installées pour le personnel au guichet, des marquages au sol également installés pour l'enregistrement, le passage à la douane, au contrôle et aussi à l'embarquement. Des contraintes donc pour la sécurité supplémentaire. Certaines compagnies ouvriront les banques d'enregistrement dès midi pour réduire donc l'attente avant les embarquements.
Direction la Guyane maintenant, la Guyane où la venue prochaine du professeur Karine Lacombe, qui veut poursuivre là-bas ses essais sur la transfusion de plasma de personnes guéries sur des personnes malades, eh bien cette venue ne fait pas du tout l'unanimité, les élus guyanais notamment, se montrant très très hostiles à cette éventualité. En revanche, certains professeurs du centre hospitalier de Cayenne, eux, se disent favorables à l'arrivée du professeur Lacombe et de ses équipes. Mélodie Nourry.
Chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de Cayenne, le professeur Félix Diossou fait partie de ceux qui ont donné leur accord pour que la Guyane fasse partie des centres d'essai cliniques participant aux travaux de recherche menés par le professeur Karine Lacombe dans l'Hexagone depuis avril. Chez nous, ce type d'essai est mené au CIC, le centre d'investigation clinique dirigé par le professeur Mathieu Naché. Lui aussi est OK pour accueillir l'équipe parisienne et pour cause.
Comme il y a la vague qui arrive, tout le monde est débordé, on manque de bras. C'est ça, donc c'était d'avoir des renforts pour aider à éventuellement mettre en place un essai ou deux essais de plus pour pouvoir suivre. On ne peut pas tout faire, c'est juste pas possible.
Car les essais sont importants pour faire avancer la recherche et ils ne sont pas menés n'importe comment, comme le souligne le professeur Diossou.
Moi, je veux rassurer sur le fait que c'est dans la parfaite sécurité des patients que nous le faisons et pour leur bénéfice et rien d'autre. On ne fait pas de la recherche comme il y a quelques années, c'est-à-dire en dépit des règles. Quand on les met dans un protocole, c'est une démarche individuelle. C'est chacun qui, après une information, signe un consentement. C'est un contrat entre l'investigateur et le patient.
Et pour l'instant, le professeur Lacombe dit qu'elle est prête à venir, mais qu'elle ne sait pas encore si ce sera possible et dans quelles conditions. Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain. Merci à vous, Benoît Ferrand. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain, 15h10, heure de Paris, 9h10, heure de Port-au-Prince. En attendant, très très belle journée à tous.